secrets de famille, d'amour de la littérature, de la définition de l'amour, il sera question ce soir en compagnie de nos deux invités. Clara Dupont-Monod qui signe en cette rentrée littéraire un livre intitulé « S'adapter » et Maud Ventura, un livre au titre très sobre, « Mon mari ». Mais comme chaque soir, nous allons commencer en musique et on va commencer très très bien puisque ça sera avec Michel Berger.
Quand nos regrets viendront danser autour de nous, nous rendre fous, seras-tu là pour nos souvenirs et nos amours inoubliables, inconsolables, seras-tu là? Pourras-tu suivre là où je vais? Sauras-tu vivre le plus mauvais? La solitude, le temps qui passe et l'habitude, regarde l'air, nos ennemis, dis-moi que oui, dis-moi que oui, quand nos secrets n'auront plus cours. Quand les jours auront passé, seras-tu là pour nos soupirs sur le passé que l'on voulait? Seras-tu là? Le plus mauvais, la solitude, le temps qui passe et l'habitude, regarde l'air, nos ailes.
Alors les filles, la première question s'adresse à toutes les deux. Le premier livre que vous ayez lu et qui vous a donné la sensation que peut-être un jour vous alliez écrire. Maud.
Passion simple de Annie Arnaud.
Jojo Lapin sur Rebif. Livre quand j'avais 6 ans. Livre d'enfant. Mais c'est ce jour-là où je me suis dit, ça alors avec quelques lettres, 26 lettres de l'alphabet, on peut donc construire un monde.
Et à partir de là, c'était resté dans un coin de votre arrière-mémoire.
Oui, de se dire, mais j'étais vraiment fascinée, je me souviens de m'être dit, mais on construit donc un pays avec des personnages, des dialogues, avec des espoirs, des épreuves, des envies de vaincre. Et ça s'appelait Jojo Lapin se rebiffe. C'était la Bibliothèque Rose.
Et vous, Maude, quand est venue et dans quelles circonstances la décision de passer à l'acte ?
C'était, je pense, lié à ce livre de Annie Ernaux que j'ai lu, et c'est l'histoire d'une femme folle amoureuse d'un homme marié, et c'est un amour impossible, et c'est un texte très court qui parle de cette passion, et je me suis dit, mais en fait, c'est ça la littérature, on peut raconter exactement ça, on n'a pas besoin justement de faire des décors et de faire des descriptions, et en fait, on peut, si on veut écrire pendant 50 pages pourquoi on a du désir pour un homme, on peut le faire, et ça peut être sublime. Donc ça a ouvert la voie à me dire que la littérature, c'était ce qu'on avait envie d'y mettre. C'est une liberté infinie.
Clara ?
Alors, la question, c'était le passage à l'acte. Ah ben, alors moi, c'est très circonscrit. C'était lors d'un enterrement qui était celui de... Oui, je suis un peu désolée, ça casse un peu l'ambiance. Et je vais encore plus la casser, parce que c'était l'enterrement de mon frère. Et là, boum, ça alourdit bien les choses. Mais devant sa tombe, où je me suis dit, j'écrirai une histoire pour toi. Et ça a été mon premier texte paru qui lui est dédié, avec l'idée de laisser une trace, en fait.
Donc la littérature, c'est laisser une trace, ou c'est transmettre une histoire qui doit durer peut-être pour l'éternité.
Alors je crois plus à l'idée de la trace, mais en même temps, ça rejoint ce que vous dites sur l'idée de rester pour plus longtemps que notre passage terrestre. Et c'est cette idée que j'aime beaucoup, moi, des ruines qui restent là. En fait, je pense qu'un roman, c'est une ruine qui reste longtemps, longtemps, longtemps là, exactement comme les pierres ou des vestiges peuvent être le témoin du passage à un moment de quelqu'un.
C'est drôle que vous disiez des ruines, parce qu'on pourrait dire que c'est le contraire, c'est une maison architecturée, un roman, avec un univers, des personnages, une temporalité.
Oui, mais il y a eu le passage du temps dessus, donc qui fait que il y a plus de charme, en fait, il y a la patine du temps. La maison d'architecte, elle est nickel, elle est fonctionnelle, elle est parfaite pour y habiter. La ruine, on peut y projeter tout un imaginaire. C'est parce que c'est pas achevé qu'on peut du coup y projeter de l'imagination. Et du coup, il y a quelque chose de l'ordre de, pour l'imaginaire, une sorte de tarmac qui fait qu'on peut faire prendre l'envol à une imagination.
Votre définition du roman, Maude Ventura, vous, c'est votre premier roman, Mon mari.
Vous avez utilisé le mot de témoin et je crois que j'aime beaucoup ça. Ce livre, je l'ai écrit sur environ 4 ans, évidemment pas à temps plein, mais voilà, c'était des choses un peu que je faisais quand j'avais le temps, un week-end de temps en temps. Et en fait, je me dis que pour toute la vie, il reste quelque chose de ces 4 années. C'est le témoin de ce temps, de la personne que j'étais à ce moment-là, des questions que je me posais, de ce qui m'empêchait de dormir la nuit à cette époque. Et donc pour toujours, je ne sais pas si c'est pour l'éternité, mais pour toujours, ces 4 ans sont en livre et donc il y a cette impression bizarre que la vraie vie commence.
Ça veut dire que vous n'êtes plus la même depuis la publication de votre ouvrage ?
Oui, je ne suis plus la même. Je ne suis plus la même, mais il reste pour toujours un témoignage de celle que j'ai été et un bout de moi et dans ce livre, pour toujours.
Alors, on parlera de vos ouvrages respectifs. Si je vous ai proposé d'être ensemble ce soir dans cette émission, c'est parce qu'il y a des échos. Il y a un amour de la littérature, il y a un amour des mots, il y a un dispositif narratif très différent dans votre roman Maude Ventura que dans le roman de Clara. Et cependant, il y a l'air du temps. Il y a l'air du temps, il y a le temps où les filles décident de parler d'amour, où les filles décident de parler d'un amour familial, et ô combien avec de la grâce et de l'altitude morale, je dirais pour vous, Clara Dupont-Monod, le livre s'intitule sobrement « S'adapter ». Et dès les premières pages de votre livre, dans une écriture très serrée, très contenue, loin de tout apitoiement, il est question de la naissance d'un petit bébé qui est un peu différent. Vous acceptez cet adjectif « différent » ?
Oui, certaines personnes n'aiment pas ce mot « différent » et préfèrent celui de « singulier », ce que je peux entendre aussi. Mais « différent » me semble être assez juste parce que par rapport à la norme, en effet, cet enfant, les parents se rendent très vite compte qu'il ne peut pas voir ni saisir des objets. Il est tout mou, il ne réagit pas. Quand on le sollicite et il faut attendre le verdict d'un examen médical pour que la sentence tombe qui est qu'il est lourdement handicapé. Donc oui, il est différent.
Alors les parents vont mettre du temps pour s'apercevoir de cette différence. Les parents vont s'adapter, d'où peut-être une des explications de votre titre qui est polysémique. Mais les contours de la famille qui, comme on le sait, est quelque chose d'assez fragile et qui peut être ondoyant, vont tout d'un coup se trouver modifiées.
Oui, absolument. C'est pour ça que je tenais à ce que le point de vue de la narration soit celui de la fratrie. C'est la naissance d'un enfant handicapé, mais raconté par la fratrie. Et la fratrie a ceci de très particulier, que c'est un organisme mouvant. Au sein d'une fratrie, vous vivez la même histoire, et pourtant, selon la place que vous occupez dans la fratrie, ça va pas être la même histoire que vous allez vivre. Et en plus, les rôles ne cessent de s'interchanger au gré des événements. En tout cas, dans S'adapter, le petit dernier va finalement presque être le parent de ses parents, la cadette va devenir l'aîné de l'aîné, et en fait, la fratrie a ceci de particulier qu'elle est tout le temps en train de se réinventer. Et puis il y avait en effet cette idée que vous avez suggérée, qui me tenait beaucoup à cœur, qui est que chacun va devoir épouser les contours de cette nouvelle vie, le mode d'emploi complètement nouveau de cet enfant. Et donc la question est, s'il faut s'adapter à l'inadapté, qui c'est qui est le plus inadapté, en fait ? Et finalement, il y a un moment où l'aîné... et dans son lycée, et il se trouve que l'enfant a un sens qui fonctionne très bien, qui est Louis. Et donc l'aîné se met à corps perdu avec lui pour lui expliquer le monde uniquement de façon sonore. Il lui broie des feuilles près de son oreille, il met la radio, il y a le bruit de l'eau parce que l'action se passe dans les Cévennes. Et il est tellement arrivé à une sorte de d'hyperacuité sonore que quand il est dans son lycée, le claquement du portail, le brouhaha des classes l'insupporte. Et il y rigole tout seul en disant « mais en fait c'est moi qui suis inadapté ». Et de la même façon, à un moment, le petit dernier dit à enfant hors norme, savoir hors norme. Mais la question est toujours de savoir s'il faut s'adapter à l'inadapté, qui c'est qui est le plus inadapté finalement.
Vous venez de parler des Cévennes, le paysage joue un rôle considérable dans cette histoire familiale, à cause de la beauté du ciel certains jours, à cause de la sécheresse du granit, à cause des paysages traversés, comme s'il y avait une sorte d'osmose entre l'intériorité de chaque personnage et l'exigence presque que requiert le paysage.
Mais pourquoi ? C'est vrai. Parce qu'en fait, vous avez tout à fait raison, ce sont des paysages très âpres, assez ingrats et en même temps majestueux, qui imposent leurs lois. Les amis que j'ai qui habitent au bord de la mer m'ont dit, c'est exactement la même chose en fait au bord de la mer. C'est-à-dire qu'à un moment, quand on a un élément naturel qui est très puissant, il faut savoir faire avec et pas faire contre. C'est-à-dire si on fait contre ces éléments, l'humain est quand même perdant. Et donc, ces trois enfants, ils vont apprendre à faire avec et pas faire contre, y compris avec la montagne comme avec l'enfant handicapé. Et en fait, ça a l'air de rien, c'est très très difficile dans la vie de faire avec et pas faire contre. Et la cadette, elle a le premier réflexe qu'elle a, c'est de faire contre, justement. La cadette, elle est révoltée, elle est en colère, et comment ne le serait-on pas ?
Elle est délaissée dans le double sens du terme, puisqu'elle est délaissée par son grand frère qui ne s'occupe que du petit qui est, entre guillemets, inadapté. Et elle est délaissée parce que elle ne devient plus la cadette, elle n'est plus, entre guillemets, respectée à l'intérieur de la hiérarchie familiale, croit-elle.
Exactement, et il faut y ajouter une dimension qui en général est un peu tabou, qui est le recul qu'on peut avoir devant un organisme handicapé. Et elle est fondamentalement dégoûtée par tous ces soins que demande ce corps vulnérable. Elle trouve que les pieds qui sont arqués comme ceux d'une ballerine, parce qu'ils ne se sont jamais posés à terre, c'est dégoûtant. Elle trouve que la longue purée de légumes qui est le rituel du repas, ça prend un temps infini et elle en a ras-le-bol. Elle trouve que les chalazions, les petites crises d'épilepsie, tous les petits maux qui assaillent comme ça un organisme aussi fragile, vraiment ça la réfrigère. Et ça c'est quelque chose aussi que je trouvais audible. Mais elle apprend quand même à faire avec et pas faire contre. Sinon, en fait, elle a trop à y perdre.
Je vous propose d'écouter la voix d'Élisabeth de Fontenay, grande philosophe devant l'Éternel, mais qui a aussi, très tardivement dans son existence, écrit un livre bouleversant sur son frère, Gaspard. Le livre s'intitule « Gaspard de la nuit ». Élisabeth de Fontenay va parler de sa famille et de la maladie mentale de son frère au moment de la publication de cet ouvrage. C'est une archive du 18 septembre 2018.
Elle a voulu la dissimuler. Elle a parfaitement comprise. Elle en a pris acte. Mais elle a voulu la dissimuler. Elle a voulu que, dans les réunions de famille, il fasse bonne impression. Et elle a réussi. Il était parfait. Il était parfait. Ce n'est pas une critique que je fais, hein, parce qu'elle l'a rendu extrêmement sociable, Alors que peut-être, s'il y a vraiment, comme les médecins disent, une psychose infantile, le mot psychose est terrifiant. Bon, il a échappé à la psychose. Pas seulement par le fait que ma mère l'a un peu mannequiné, mais aussi, hélas, par les médicaments, par les neuroleptiques, qu'on inventait au moment où on l'a interné en Suisse, dans un hôpital psychiatrique. Et les premiers neuroleptiques étaient effroyablement forts et vous assommaient pour la vie.
Qu'est-ce qui n'allait pas chez Gaspard ?
La coupure avec la réalité totale.
Il était dans le même monde que vous ? Il est dans le même monde que vous aujourd'hui ?
Ah non, 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 il est toujours coupé de la réalité, mais on partage des petites zones de communes.
Lesquelles ?
Les repas en particulier. La musique.
La marche ?
Ben, il marche plus beaucoup, et là, c'est ça le problème. Mais il aimait pas tellement ça, non. Non, il aimait pas tellement ça. Il a toujours été assez paresseux. Il n'avait jamais la force de vouloir.
Élisabeth de Fontenay vient de dire ce mot de mannequiner. Elle vient de dire que la famille a essayé de taire cet enfant qui était différent des autres. À l'intérieur de votre roman, est-ce que c'est un roman ? Je vais regarder, c'est un roman, oui. Ou un récit, on peut se poser la question. D'ailleurs, je vais vous la poser. On se dit que cette famille-là a toujours eu le courage d'inclure dans son ADN de fonctionnement familial cet enfant différent parce que il est peut-être plus que les autres. Et que les parents se rendent compte qu'il est peut-être plus que les autres. Clara Dupont-Monod.
Oui, pardon, je reste un peu silencieuse parce que c'est très fort ce que vous dites et je vous en remercie et ça me fait réfléchir. Oui, il se trouve que cette famille-là a en effet grand mérite qui est celui d'inclure la différence et de partir du principe que le collectif aurait tout à gagner à inclure le singulier. Et je pense fondamentalement qu'ils ont raison, ce que ne fait pas notre société, surtout quand on sait qu'il y a 12 millions de personnes handicapées en France, que donc on ne voit jamais nulle part, et que c'est une tannée pour les familles à qui on met la tête sous l'eau. Donc ça, c'est un premier motif d'indignation. Et ensuite, je pense que c'est peut-être pour ça que l'histoire est racontée du point de vue des pierres. C'est-à-dire que les murets de pierres sèches dans les Cévennes ont ceci de particulier que les pierres ne sont pas tenues entre elles par un liant, du ciment ou quelque chose comme ça. En fait, s'il tient, c'est parce qu'une pierre soutient l'autre. C'est par la grâce d'un poids, d'un savant dosage de volume. Et pour moi, c'est l'équivalent, sinon de la fratrie, du moins de la famille. Alors, c'est pas du tout un livre, du coup, dans l'air du temps, qui est « Famille, je vous hais », etc. Au contraire, c'est vraiment une ode à la famille, finalement. Parce que je me suis quand même aperçue qu'on pouvait toujours pourfendre la famille, mais même ceux qui n'en ont pas, s'arrangent pour s'en refabriquer une. C'est bien qu'on en a besoin. Quand même.
Je vous propose d'écouter un autre écrivain japonais, lui prix Nobel de littérature, Kenzaburo Oe, qui va nous expliquer comment l'écriture lui a permis de rendre compte de sa vie. C'est une archive INA du 17 janvier 2006.
Je pense rétrospectivement que la fin de la guerre, cela a vraiment signifié pour moi une blessure extrêmement profonde. A coïncidé avec la période de la fin de la guerre, la mort de mon père, qui était un ultranationaliste. Et c'est après donc la mort de mon père, la fin de la guerre, cette blessure gigantesque, que je suis venu à Tokyo, qu'il y a eu la naissance de mon fils handicapé. Et mon écriture m'a servi à me comprendre moi-même. Et le résultat en a été en quelque sorte que je me suis petit à petit éloigné de l'ombre de la mort, que j'ai, dans cette tentative pour survivre, j'ai petit à petit cheminé vers la vie. Et ça, je crois que c'est cet apaisement dont vous parlez, quelque chose qui est de l'ordre de la guérison.
Alors Kenzaburo Oe a écrit des chefs-d'œuvre, mais notamment un livre qui est dédié à son fils, avec lequel il vit encore aujourd'hui dans un faubourg de Tokyo. Sans être dans un questionnement frontal avec vous, Clara Dupont-Monod, votre écriture, la tension qu'il y a dans votre écriture, la scansion aussi, la pulsation, on a vraiment l'impression que vous savez de quoi vous nous parlez à l'intérieur de ces mots-là.
Oui, alors il se trouve qu'après, de toute façon, à un moment, ça doit être dit, puis c'est pas une maladie honteuse, mais il se trouve que dans ma famille, on a eu un frère qui est né et qui handicapé et qui est mort pas très longtemps après sa naissance, d'ailleurs. Et c'est quelque chose, en revanche, qui nous a, en tout cas moi, qui m'a construite. Bien sûr que c'est douloureux, bien sûr qu'il y a le regard crucifiant des autres, que ça vous fait grandir beaucoup trop vite, que vous êtes dépositaire d'un savoir qui n'a pas à être entre vos mains quand vous avez entre 10 et 15 ans. Il n'empêche que, arrivé à l'âge adulte, il y a quelque chose de l'ordre de la grande richesse, en fait, et de la construction dont je suis très fière. Et arrive aussi un moment où la joie d'avoir connu cet enfant-là est plus forte que la peine de l'avoir perdu. Et c'est là où l'écriture devient possible. Quand l'écriture barbote et dans le chagrin, c'est très difficile d'écrire. C'est pour ça que je crois qu'à moitié à l'écriture thérapie. Je pense en revanche que l'écriture vient couronner comme ultime fil qui servirait à recoudre une plaie. Mais on est dans le processus de cicatrisation beaucoup plus que, vous voyez, que de thérapie pour moi. Et le livre et l'écriture n'a été possible que parce que il y avait pleine place pour la gratitude d'avoir connu cet enfant-là. Ce sont des enfants, et plus généralement le handicap, qui sont d'une richesse infinie. Enfin, ça vous donne accès à un langage qui est infragestuel, qui est infravisuel, qui est infralangagier. Il faut voir quand même les zones que ça convoque en vous et que ça va titiller. Zones qu'a priori dans la vraie vie normée, qui n'ont aucune raison d'être sollicitées. Alors que là, vous arrivez quand même à un degré avec ces enfants et ces adultes-là handicapés, extraordinairement profond. C'est pour ça que quand on discute souvent avec des gens qui sont dans des maisons spécialistes des enfants, adolescents et adultes handicapés, ce sont des gens très passionnés par leur métier, mais je comprends très bien pourquoi. C'est-à-dire que vous avez accès quand même à une zone d'affection, de partage, de communication absolument étranger à la vraie vie de tous les jours, quand tout se passe bien, entre guillemets.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix musical de Clara Dupont-Mono, Jean-Jacques Goldman, Il suffira d'un signe. Ne riez pas, on est contente.
Ah bah moi aussi. Thank you.
paraît peut-être paradoxal, puisqu'en oui. réalité, l'amour, enfin l'amour-passion, donne lieu à une très grande quantité de productions littéraires et artistiques, à des œuvres, à des romans, à des films, à des chansons. Enfin. Mais je dirais que malgré tout, il y a une solitude de l'amour-passion pour deux raisons. La première, c'est que je distinguerai, c'est peut-être un thème qui reviendra entre nous d'ailleurs, je crois qu'il faut distinguer entre ce que j'appelle le discours amoureux, c'est-à-dire l'espèce de soliloque d'ailleurs extrêmement fragmenté, morcelé, désordonné, que le sujet amoureux se tient dans sa tête lorsqu'il est amoureux, et l'histoire d'amour, c'est-à-dire ce que la société, en quelque sorte, qui se délègue à ses romanciers, d'ailleurs pour notre plus grand plaisir, ce que la société fait de ce sentiment amoureux en lui donnant l'espèce d'harmonie, même souvent, même s'il est un peu douloureuse, d'une histoire, d'un récit. Ça, c'est une première raison, enfin, de la solitude du sentiment amoureux, du discours amoureux. Moi, je distingue bien entre discours et histoire. Et la seconde raison de cette solitude, que je postule, que je suppose, que je constate, c'est que dans l'époque actuelle, disons, cette espèce d'amour-passion, d'amour romantique, il faut bien le dire, disons, en gros, il n'est plus à la mode. Il a probablement une grande audience populaire, mais il n'est plus à la mode, c'est-à-dire qu'il n'est pas pris en charge par les grands langages théoriques ou réflexifs ou idéologiques que la modernité a produits. Pas pour citer des systèmes langagiers très connus, je dirais que ni le marxisme, ni même la psychanalyse, si vous voulez, ne prennent en charge ce sentiment amoureux. Mmh. Ce qui fait que si on a affaire à un sujet amoureux qui a une certaine teinture de culture intellectuelle, eh bien ce sujet-là, s'il lui advient de tomber amoureux, va se trouver extrêmement solitaire. Parce qu'il essaiera, mal. Comme il souffre, il essaiera de s'appuyer sur un langage, une théorie qui l'aide, qui le prenne en charge, et dans l'époque actuelle, il ne trouvera rien. S'il s'agissait d'affirmer, je dirais, quelque chose comme une perversion ou une sexualité, à ce moment-là, il trouvera effectivement un langage théorique, n'est-ce pas, depuis 20 ans, qui l'aidera à se comprendre et à s'affirmer. Mais s'il lui advient d'être amoureux comme on l'était du temps de Werther, eh bien à ce moment-là, personne autour de lui ne répond. Sauf justement cette culture populaire, dans la mesure d'ailleurs où elle est coupée du langage intellectuel. Oui.
Nous venons d'entendre la voix de Roland Barthes à propos de la solitude dans le sentiment amoureux. C'était au moment de la publication de son livre sur les fragments du discours amoureux. C'était le 29 avril 1977 et c'était au micro de Bernard Pivot. Si nous avons choisi cette archive, Maud Ventura, c'est parce qu'effectivement, elle fait référence à la thématique principale de votre premier roman, Mon mari. Roland Barthes vient de dire, c'était en 77, hein, vient de dire qu'effectivement, la solitude est l'état principal dans lequel se retrouve finalement toute personne amoureuse. Et quand on lit votre livre, Mon mari, on se dit que Roland Barthes avait peut-être raison.
Oui, quand je l'écoute, j'ai envie de dire oui à chacun des mots qu'il prononce. Au début de l'extrait, il parle de soliloque. C'est exactement ce que je ressens, c'est exactement ce que j'ai essayé de transmettre dans l'écriture. C'est cette espèce de discours intérieur, ce qu'on se répète, on est en boucle et on se répète 100 fois les mêmes choses et on se rejoue 100 fois la même scène pour essayer de comprendre et on est bloqué dans un espèce de monologue intérieur qui n'en finit pas. Donc c'est extrêmement solitaire. Et puis il parle aussi de l'absence de repères et de cette solitude dans les références. Et c'est aussi ce que je ressens. J'ai l'impression que quand on est très très amoureux, quand on vit une passion, on cherche partout des choses qui vont nous l'expliquer, qui nous le rappellent. Alors on va trouver des choses dans des musiques, dans une chanson de, je sais pas, Véronique Sanson, dans une chanson de Michel Berger. On va trouver quelque chose en découvrant Annie Ernaux, Passion simple. On se dit, ah oui, il y a quelque chose ici.
Comme et des signes, comme des pistes.
Exactement, on cherche des signes, des pistes qui vont éclairer ce qu'on vit, y donner un sens et apporter une sorte d'explication ou un apaisement.
Alors, beaucoup de nouveautés dans l'écriture de ce premier roman, Maud Ventura. D'abord, votre style, votre dispositif, des chapitres très courts qui se succèdent à une cadence effrénée, le monologue, puisque Vous êtes à la place de la narratrice, c'est la narratrice qui raconte l'histoire, jamais personne d'autre, alors que cette narratrice a un mari, d'où le titre « Mon mari », a aussi des enfants, a aussi des amis, a aussi des amants, a aussi un boulot. Bref, elle est apparemment comme tout le monde, et cependant, c'est de l'intérieur de ce qui se passe dans sa tête que vous avez décidé d'en écrire. Pourquoi ?
Parce que ce qui m'intéressait, c'était l'obsession. Et l'obsession, c'est ce qu'on vit à l'intérieur, c'est ces phrases qu'on se répète et cet enfermement dans sa subjectivité. Et j'ai l'impression que dans la passion, ce qui rend dingue, c'est qu'on voudrait tellement avoir le point de vue de quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça qu'on en parle avec des amis, qu'on essaye de trouver des choses. Mais en fait, on est enfermé. Et il y a cette question, c'est est-ce que c'est dans ma tête? Est-ce que je suis folle? Ou est-ce qu'effectivement, il a enlevé sa main? Est-ce qu'effectivement, il est distant? Est-ce qu'effectivement, son SMS est un peu plus court que d'habitude, et donc on passe son temps à se demander si on est fou, et on est malheureusement enfermé dans cette subjectivité, d'où ce roman à la première personne, et dans ce jeu, dans sa tête, et je voulais que le lecteur à chaque page se dise est-ce qu'elle est folle, est-ce qu'elle en rajoute, est-ce qu'elle a raison, et mette en doute sa parole.
Alors vous avez ceci de particulier, c'est que vous prenez l'histoire au moment où elle est déjà mariée. Alors que les romans d'amour, il y en a légion, y compris dans cette rentrée littéraire, qui sont absolument remarquables, mais qui parlent plutôt soit du moment de l'éclosion, soit du moment de la cristallisation, soit du moment de la rupture. Mais là, vraiment, malgré votre jeune âge, vous avez formidablement choisi votre angle mort, si j'ose dire, de l'amour. C'est-à-dire que vous nous invitez au voyage intérieur d'une femme qui a réussi à concrétiser son amour, comme si l'amour continuait avec autant de passion, alors que, je vais être vulgaire, excusez-moi, alors qu'elle est casée, elle devrait être tranquille, puisqu'elle l'a épousée.
C'est cet angle mort précisément qui m'intéressait. C'est pas le moment de la rencontre, le moment de la rupture où ça explose. Moi, c'est le quotidien. C'est qu'est-ce qui se passe au bout de 10 ans, au bout de 15 ans, au bout de 20 ans. Et c'est surtout cette intuition que j'avais, précisément pour revenir à Annie Ernaux, dans ce livre, c'est le livre de l'amour impossible. Elle est folle amoureuse d'un homme, mais c'est un homme marié, c'est impossible, donc elle est déchirée. Mais moi, en lisant ce livre, je me disais oui, mais je suis persuadée qu'on peut vivre ce même déchirement avec l'homme avec qui on est marié, qu'on n'a pas besoin de vivre un amour impossible pour vivre cette passion et qu'on peut vivre dans cet état d'effervescence déjà, pas pendant un mois ou deux, mais pendant 15 ans, et qu'on peut le vivre pour une personne qui est accessible, une personne qui nous aime, une personne qui rentre tous les soirs à la maison. Et donc c'était ça, moi, qui me fascinait.
La banalité de l'amour fou, la répétition de l'amour fou, Maud Ventura.
Oui. Cette folie du quotidien, cette folie dans laquelle on est pris, un espèce d'engrenage qui rend fou, et qui rend fou surtout parce que ça dure. Parce que cette passion, des débuts, on se dit, bon, bah, ça dure une semaine, deux semaines, et c'est charmant, et c'est rigolo. Et on se dit, ça dure quelques mois, c'est le début, puis après, ça s'apaise. Après, il y a quelque chose d'autre qui se construit, l'amour se transforme en confiance, on construit quelque chose de plus tranquille. Mais je me disais, et si ça se passe pas pour moi? Et si je reste dans cet état d'intranquillité pendant 5 ans, pendant 10 ans, pendant 20 ans, qu'est-ce qui se passe?
Alors, il n'y a pas que Madame Bovary qui découvre l'amour en lisant des livres. Il y a aussi votre narratrice dans Mon mari qui découvre une écrivaine dont nous allons entendre la voix. Elle parle de son livre L'amant. C'était au micro de Luce Perrault et c'est une archivina du 17 juillet 1988.
L'amant, c'est presque comme je le dis. Je peux dire que c'est comme je le dis. Sauf que je ne passe pas beaucoup de temps à dire comment l'amour se faisait. La découverte de la garçonnière par la petite. Comment elle se sauve la nuit aussi pour trouver le jeune boy. Elle est intenable. Et puis les promenades le long du fleuve la nuit. Puis les gens ont adoré l'histoire de la petite avec le chinois. Pas les femmes. Les femmes, oh, elles aiment pas quand je parle de l'amour. Oh, elles disaient... Quelle idée vous avez, mais pourquoi parler de ça à votre âge, enfin? Ça se fait pas, on ne doit plus parler de ça à partir d'un certain âge. On continue à écrire des livres, mais on ne parle plus de l'amour. Et surtout pas de l'amour physique. Faut oublier.
Alors les femmes n'aiment pas quand on leur parle d'amour, disait Marguerite Duras en 88. Heureusement, les temps ont bien changé. Et Maud Ventura, vous avez quel âge, vous?
28 ans.
Waouh! Et donc, les temps ont changé quand même pour avoir votre grâce d'écriture et pour pouvoir nous emmener dans la tête de celle qu'on pourrait appeler l'amante. Pas la femme, pas l'épouse, l'amante.
L'amoureuse, l'amante, la passionnée.
Plus que ça, oui, plus que l'amoureuse. Parce que dans la notion d'amante, il y a peut-être justement, comme vient de le dire Marguerite Duras dans cette archive, l'idée de la passion physique, la passion sexuelle. Elle veut son corps, elle veut pas seulement son esprit.
Oui, on peut pas faire cette économie quand on raconte une histoire d'une passion amoureuse. Et c'est ça qui m'avait à ce point-là troublée dans le livre d'Annie Ernaux. C'est que c'est un livre où ça parle de passion physique pendant une grande partie du livre. Et ça, on n'en fait pas l'économie parce que dans la passion, il y a aussi une attraction pour ce corps. Et mon personnage est attiré par le corps de son mari comme un aimant. Et elle vit pour ce corps-là et tous ses mouvements tournent autour de lui, mais comme un satellite.
Alors, ce qui est très fort dans votre écriture, c'est que finalement, il y a un dispositif un peu à la Georges Perec, c'est-à-dire une objectivation de la réalité, avec tout son environnement. Elle habite une belle maison, elle a un beau jardin, elle a un grand frigidaire, elle a des enfants gentils. Tout va très bien pour elle, mais petit à petit, et ça aussi c'est très bien construit à l'intérieur de votre narration, Maud Ventura, c'est que nous, lectrices et lecteurs, petit à petit, quand les chapitres se succèdent, on se dit mais elle est complètement barge. Mais au début, elle a l'air tellement normale.
Elle est barge et j'ai envie qu'à tous les moments, on se dise « Ah, elle est barge !» Mais c'est vrai que je l'ai déjà pensé. Et jouer sur ce fil, on se dit, elle exagère. Oui, bon, c'est vrai qu'une fois, j'ai pu faire ça. Et qu'à chaque fois, on se reconnaisse et en même temps, qu'il y ait cette fascination, cette répulsion en même temps pour cette femme qui va trop loin et qui pousse à chaque fois la barre plus loin. Et on se demande aussi jusqu'où elle va aller. Et c'est la question que je me suis posée en l'écrivant. C'est jusqu'où on peut aller quand on est trop amoureux, quand on aime trop fort, quand on est trop passionné.
Bah écoutez, excusez-moi Maud, je sais bien que vous êtes jeune, mais quand même... Elle est super amoureuse de son mari, puisque c'est la thématique obsessionnelle de votre premier roman, mais elle se tape plein de mecs, et lui pas.
Mais oui, mais elle le fait par amour, voyons, et c'est ce qu'elle explique, parce que quand on est passionnément amoureux, on peut être aussi de grande mauvaise foi, et en fait elle est tellement amoureuse de son mari, elle vit pour lui.
Elle est amoureuse de son mari ou elle est amoureuse de l'amour?
Ah bah c'est une bonne question. Je pense que la question est ouverte dans ce roman, quand on est dans cette phase de cristallisation et d'idéalisation. Est-ce qu'on aime l'autre ou est-ce qu'on est amoureux d'une image? Et ce mari, d'ailleurs, il s'appelle Mon Mari. Elle est très fière de dire Mon Mari travaille dans la finance, Mon Mari ci.
On ne connaîtra jamais son nom, mais ni son prénom.
Voilà, on ne connaîtra jamais son prénom parce que elle est amoureuse d'une figure et lui, on sait finalement peu de choses de lui. Mais oui, pour la question des amants, je ne vois pas une grande contradiction. Avoir un amant, pour elle, c'est une manière de se réapproprier son corps, de se dire pendant une heure, je ne lui appartiens pas, je suis indépendante, je fais ma vie, je suis libre, je n'ai pas besoin de lui. Sauf que ça ne marche pas.
Je vous propose d'écouter la voix de Patrice Chéreau à propos de Phèdre de Racine et de sa mise en scène magnifique. Et puis on écoutera un très court extrait de cette Phèdre mise en scène par Patrice Chéreau.
Il n'y a aucun crime dans Racine. Il y a beaucoup moins de crimes que dans Euripide. Il y a beaucoup moins. Si ça doit être un crime, il y en a beaucoup plus dans Euripide, disons. Puisque là, elle n'a eu que la pensée d'aimer quelqu'un. Et elle le pense depuis 20 ans. Mais elle aime depuis 20 ans. Mais c'est pas un crime. Dans les règles de bienséance qu'impose Racine, elle ne se dévoile que parce que son mari est mort, que parce que Thésée est mort. Et donc, brusquement, je me suis dit, cette chose, l'obsession qu'ont les gens de la penser comme coupable, l'obsession qu'elle a elle-même de se penser coupable, raconte énormément de choses sur le désir féminin. Et sur une chose que, quelquefois, les hommes ont du mal à comprendre. Je suis tombé sur une citation effrayante de Valérie, où il dit à peu près que c'est toute l'horreur du désir féminin, dans toute sa rage. Le mot est plus terrible que ça, et je me suis dit, mais ça, c'est voilà une réaction intéressante, c'est-à-dire que Phèdre, avec cet excès de douleur et de masochisme, racontait l'oppression ou racontait la soumission au modèle masculin.
Quelle importune main, en formant tous ses nœuds, a pris soin sur mon front d'assembler les cheveux. Toi dont ma mère osait se vanter d'être fille, et peut-être rougie du trouble où tu me vois. Soleil, je te viens voir pour la dernière fois.
Nous venons d'entendre un court extrait de cette mise en scène absolument magistrale, et vous avez peut-être reconnu la voix de Dominique Blanc qui interprétait magnifiquement Phèdre. Est-ce un crime que d'aimer Maud Ventura? Est-ce qu'elle devient une sorte de criminelle de l'amour, votre héroïne, à force d'être obsédée par son désir amoureux?
En tout cas, elle devient monstrueuse, et je crois que c'est le motif dans Phèdre, la pièce de Racine. C'est la femme monstre, et c'est la femme monstrueuse d'aimer, et c'est le motif de l'amour triste. C'est que l'amour, dans les représentations, c'est un sentiment heureux, on tombe amoureux, il y a les papillons et le soleil qui brille. Mais en fait, l'amour, ça peut faire très mal, et je parle même pas d'une histoire qui se passe mal. Je parle juste le sentiment, ce sentiment dans la poitrine, ce sentiment de brûler. Elle dit « je brûle d'amour ». Pour Hippolyte, elle brûle, elle se consume, elle a mal, et donc elle a l'amour triste, Phèdre, et c'est en ça que ma narratrice se compare de manière déjà, des fois, c'est risible et un peu mélodramatique, mais elle se compare à Phèdre. Elle dit « j'ai l'amour triste ». Elle dit « mais je ne m'approuve pas à moi-même quand j'aime. Je ne suis pas d'accord d'aimer, mais j'aime malgré moi et j'en suis triste ».
À Clara, j'ai posé la question un peu frontale de savoir pourquoi et comment elle savait si bien parler de ce sujet douloureux dans ce roman qui vient de sortir, qui s'intitule « S'adapter ». J'ose formuler la même question avec vous, Maud Ventura. Comment vous avez réussi à vous mettre autant, à vous lever à l'intérieur de la personnalité de votre héroïne?
Sans grande surprise, cette héroïne, c'est beaucoup de moi. C'est des choses que j'ai vécues, c'est cet amour triste, c'est sentir qu'on est avec quelqu'un qui, en apparence, nous donne tout ce dont on a besoin pour être heureux. On a l'appartement et on a la vie parfaite et tout va bien. Et pourtant, on ressent ce vide immense dans la poitrine et il y a quelque chose qui ne le comble pas. Et donc j'ai inventé cette histoire. On parlait de est-ce que l'écriture est thérapeutique, est-ce qu'elle permet de cicatriser. Moi, ça m'a permis de cicatriser ce manque immense que je ressentais. Et cette peur aussi d'être monstrueuse, un peu comme Phèdre. Je me disais, mais est-ce que j'aime trop fort? Est-ce que je suis folle? Est-ce que je suis trop amoureuse? C'est possible de trop aimer quelqu'un?
Tout à l'heure, Chéreau a parlé d'une phrase de Paul Valéry sur justement la folie amoureuse et sexuelle des femmes et ce désir féminin qui fait tellement peur aux hommes. Là aussi, à l'intérieur de votre roman, Maud Ventura, il y a l'homme qui est en creux, si j'ose dire, vu uniquement par son regard à elle. Et c'est ça qui est très fort dans les rouages et les mécanismes de votre construction mentale et intellectuelle, de votre définition de l'amour. Et lui, il ne sent rien. Il ne se rend compte de rien. Mais lui, il est dans une espèce de normalité un peu banale.
Oui, cette normalité un peu banale, avec tous les grands préceptes que se donne ma narratrice pour justement faire ce qu'elle considère les choses bien. Et vous parliez de désir. Elle se dit, bon, surtout, il faut pas que je lui montre que je le désire trop. Surtout, il faut que je sois inaccessible. Surtout, il faut que j'essaie de le rendre jaloux. Surtout, si je lui montre, par exemple, que je le désire sexuellement, si je lui montre ça, ça va le faire peur. Le désir masculin est fragile. Donc surtout, ne surtout pas montrer trop mon désir. Il faut que ça vienne de lui. Et donc, elle a intégré tous ces discours qui sont, je pense, totalement à côté de la plaque, mais qu'elle a intégré. Et elle devient cette femme-là.
Vos deux livres donnent beaucoup de désir de lire. Une fois qu'on les a ouverts, on ne peut pas les lâcher. Comment chacune d'entre vous vit cette rentrée littéraire? Et auriez-vous la gentillesse, si vous en avez envie, à la fin de cette émission, de donner chacune votre avis de lectrice sur le livre de l'autre? Clara Dupont-Monod?
Alors c'est un exercice périlleux. La première partie de la question, c'est par rapport à la rentrée littéraire.
Vous êtes encore sur les listes, hein, oui. On touche du bois, hein, pour vous deux là.
Alors moi, le cas de figure est un peu particulier parce que c'est un texte qui intervient après des livres que j'ai écrits et publiés qui étaient de l'ordre du roman, entre guillemets, historique, même si je pense que tout roman est historique et donc ça ne veut rien dire. Mais en tout cas, moi qui ai une grande passion pour le Moyen-Âge, jusqu'à présent, j'avais vraiment eu le Moyen-Âge chevillé au cœur, et que j'ai toujours d'ailleurs. Mais pour le coup, celui-là représentait quand même une part de prise de risque. Il y a une mise en danger quand même. Donc j'y allais un peu sur la pointe des pieds, beaucoup moins équipé que pour les autres, et donc de le savoir porter par les listes, mais aussi par l'accueil et par à la fois médiatique et celui du public, ça, c'est extrêmement soutenant en vérité, et c'est là où on se rend compte que ce soutien, on en avait quand même besoin. Peut-être plus que si ça avait été un roman de nouveau du Moyen-Âge.
Et vous, Maud? Premier roman sur les listes, reconnu, distingué, ce qui est quand même très rare dans plusieurs listes.
Je pense que j'aborde
petit cette... éditeur entre guillemets, hein, mais c'est pas des grosses machines éditoriales qui vous publient, donc regard des lectrices et des lecteurs tout à fait soutenu.
Je pense que j'aborde cette rentrée littéraire qui est ma première avec une grande insouciance. Parce que j'ai aucun élément de comparaison, j'ai pas vécu d'autres rentrées, donc j'avais absolument aucune attente. Et on me l'a dit et répété, c'est super, tu publies ton premier roman, mais tu verras, tu connais les tirages pour les premiers romans, tu sais comment ça se passe, ça va être très dur la rentrée littéraire, mais c'est pas grave. Et donc c'est vrai que je n'avais pas d'attente, moi j'étais tellement heureuse de publier ce premier roman pour moi, je pensais vraiment jamais qu'il deviendrait un livre. C'était vraiment un fichier Word sur le bureau de mon ordinateur sur lequel je travaillais quand j'étais étudiante et que j'ai commencé à travailler. Je pensais jamais que j'avais même pas d'éditeur. Donc en fait, tout ce qui se passe là me paraît assez réaliste et donc je l'aborde avec une grande naïveté, je pense, et c'est tant mieux.
Vive les Border filles et bravo à vous deux et bonne chance pour la suite des prix et cette rentrée littéraire. Clara Dupont-Monod, S'adapter aux éditions Stock, et Maud Ventura, Mon mari, aux éditions de l'Iconoclaste. On va se quitter avec Feu Chatterton, que vous connaissez bien.
Compagnons des mauvais jours, je vous souhaite une bonne nuit.
Bonne nuit.
Et je m'en vais, la recette a été mauvaise. C'est encore une fois de ma faute. Tous les torts sont de mon côté. Alors je m'en vais, j'aurais dû vous écouter. J'aurais dû jouer du caniche. C'est une musique qui plaît.
Et là, il nous écoutait.
Et je n'en ai fait qu'à ma tête.
Ouais.
Et puis je me suis énervé. Compagnon des mauvais jours, pensez à moi quelquefois. Plus tard, quand vous serez réveillé, pensez à celui qui joue du phoque et du saumon fumé. Au bord de la mer, les mauvais jours, les mauvais jours, les mauvais jours, compagnons des mauvais jours, je vous souhaite une bonne nuit. Et je m'en vais, la recette a été mauvaise. Quand on joue du chien à poil dur, il faut ménager son archet. Alors je m'en vais, les gens ne viennent pas au conseil pour entendre hurler à la mort. Et cette chanson de la Fourrière nous a causé le plus grand tort. Compagnons des mauvais jours, que vous soyez une bonne nuit. Dormez, rêvez, moi je prends ma casquette et deux ou trois cigarettes dans le paquet et je m'en vais. Pensez à moi quelquefois. Plus tard, quand vous serez réveillé, pensez à celui qui joue du phoque et du saumon fumé au bord de la mer. Au bord de la mer.
Yeah.
Et c'est avec Compagnon de Feu Chatterton que nous allons nous quitter ce soir. Merci à Jean-Baptiste Dibert pour ses conseils musicaux. Merci à Mathias Alléon qui est à la régie technique ce soir. Merci à Céline Villegas, Iris Vertanissian et Élodie Royer. Et merci à Lilian Alaume qui a réalisé comme chaque soir cette émission.